17h10. Alors, donc, revenons sur cette histoire assez spéciale. Finalement, hier, en pleine émission, on apprend que la ministre Marie-Chantal Chassé quitte son ministère de l'Environnement pour être remplacée par M. Charrette. Et c'est drôle parce qu'on a eu à peu près la même réaction, toi et moi, hier, à savoir que ça prenait un certain courage, oui. une certaine humilité pour faire ça. Et ce matin, j'entendais des chroniqueurs avoir l'air surpris que certains aient eu cette réaction-là. C'est drôle, hein, parce qu'il y en a qui chialaient, au contraire, que bon, ben garde, déjà, il change d'idée, etc. Et moi, je ne l'ai pas vu comme ça et je ne le vois toujours pas comme ça, mais j'ai hâte de t'entendre.
J'ai pris tous les éléments suscités par cette nouvelle-là et par cette action étonnante-là et je l'ai pris dans chacun séparément pour essayer de faire un peu de sens autour de cette action-là. D'abord, ça survient à la veille des 100 jours symboliques, au moment où à peu près tout le monde, d'ailleurs, on lisait dans les journaux ce matin, à quelques bémols près, saluait les trois mois en poste de la CAQ. Et M. Legault n'a pas craint de jeter à 99 jours une ombre sur son bilan qu'il devait anticiper d'ailleurs assez heureux. Donc, il avoue, il prend l'erreur d'avoir choisi Mme Chassé. Mm-hmm. Ça demande de l'audace, ça demande de l'humilité. Il a parlé des doutes qu'il avait pendant la période des fêtes et ça nous ramène à Philippe Couillard qui très souvent, pas toujours, mais qui souvent boquait, défendait souvent l'indéfendable pour revenir plus tard sur sa décision. Et on sentait là-dedans souvent une espèce de protection d'une espèce de clique,
une attitude très... Même la protection de M. Barrette. Tu sais, il l'a tassé de certains comités éventuellement, de certaines négociations. Oui, c'est le plus qu'il a fait, mais jamais il aurait été plus loin, je pense.
Exactement. Et on voit vraiment le changement de cap. Alors déjà là, il y a une nouvelle. On a dit aussi beaucoup hier, il sort de la parité. Une parité qui était très importante pour lui en campagne électorale et il a donc choisi l'expérience, un parlementaire qui a, un homme qui a une expérience parlementaire plutôt qu'une femme qui n'en avait pas. On reste bien sûr dans la zone paritaire en termes de ministres hommes et femmes, mais ça veut dire qu'il n'aura plus le droit à l'erreur. Il va être sous observation. Sauf qu'il peut très bien, s'il croit vraiment à l'idée de la parité, ça implique un effort et on peut imaginer qu'au prochain remaniement, ça peut arriver dans 2 mois comme ça peut arriver dans six mois, dans un an, il reviendra à la parité plutôt que la zone paritaire, mais il sera vraiment sous observation là-dessus, c'est clair.
Oui, et les ministres ont d'affaire à marcher droit, hein, parce que c'est clair aussi, annoncer cette couleur-là, quand ça marche pas,
exactement.
C'est tout.
Avec la porte.
Et je voudrais juste te poser une question.
Oui.
J'ai repensé à toute cette histoire de Mme Chassé parce que j'ai fait partie de ceux qui en ont parlé pendant les fêtes pour dire comment elle nous mettait mal à l'aise pendant les points de presse. Je me suis dit, écoutons, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui connaissait ses dossiers, mais tu sais, quand tu dis que quelqu'un gèle en public?
La communication est fort importante, mais je vais y revenir sur ce qu'est un bon ministre
de l'environnement.
Oui. En filigrane, dans cette affaire-là, Marie-Claude, il y a l'aveu que le gouvernement de François Legault était arrivé les mains vides sur les questions environnementales. Et ça veut dire que ces questions-là sont devenues capitales dans son esprit. Il entend donc les défendre l'environnement. Il entend les défenseurs de l'environnement et pas que les représentants du pacte, dont Dominique Champagne. Il y a certainement un lobby vert qui s'est fait entendre à Québec. Et d'ailleurs, hier, c'est toi qui as amené tout de suite la réaction sur Twitter de Greenpeace. Il était 4h16. Il venait à peine de commencer à parler. Et Greenpeace a été le premier à l'applaudir. Donc, il y a un contact visiblement qui s'est fait.
Il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose.
Ça, c'est clair.
Il y a eu une phrase, moi, qui m'a titillée hier, qui m'a vraiment chatouillée dans la déclaration de M. Legault. Parlant de l'environnement, il dit « Il faut réduire l'écart de richesse par rapport à nos voisins, ne plus être tributaire de la péréquation. » Ça veut dire qu'il fait nettement un lien, puis on l'a dit hier, c'est un pragmatique, il fait un lien entre la richesse, le développement économique et l'environnement. Bravo! C'est une manière très dynamique de penser. Est-ce qu'il se prépare à passer à la vitesse supérieure qui a été adoptée dans certains pays scandinaves, entre autres, en restant dans le modèle capitaliste, mais en amenant des énergies durables, des technologies propres qui sont des instruments de développement, de rentabilité, de profit. On ne le dira jamais assez.
Oui. Et on a ce qu'il faut ici.
Absolument, le Québec peut devenir un chef de file, pas juste au Canada, en Amérique. Et ça, c'est passé vraiment sous le radar, cette phrase-là, mais elle, je pense qu'elle est, voyant le profil de M. Legault, je pense qu'elle est très importante. Et arrivons-en, qu'est-ce qu'un bon ministre de l'Environnement? Est-ce que M. Charrette sera meilleur que Mme Chassé? Est-ce qu'un ministre de l'Environnement doit absolument avoir fait un stage avec Stephen Guilbeault? Je pense que pas nécessairement. Regarde en France Nicolas Hulot, qui était le ministre responsable de la transition écologique, qui s'est littéralement cassé les dents et qui a donné sa démission.
Carrément, oui. Direct à la télévision.
C'était spectaculaire. À la radio, c'était vraiment spectaculaire. Il faut, je crois, surtout la volonté, une volonté de faire qui vienne d'en haut, qui vienne du premier ministre et qui traverse tous les ministères concernés, l'environnement, certes, mais l'économie, le développement, les technologies, les transports, ça prend vraiment une volonté globale et je pense que c'est au-delà du ministre ou de la ministre qui est concernée.
Oui, et ça va prendre quelqu'un qui va vraiment faire ses devoirs et lire ses dossiers.
Et là, là, oui, et qui sera un bon communicateur.
En effet. Et ça m'amène à te parler de quelqu'un qui ne lit pas ses dossiers, qui ne perd pas son temps à lire des résumés. Même des petits résumés. En fait, je pense qu'il faut pas que ça dépasse la demi-page. Donald Trump et son discours d'hier soir. Discours parano, fallacieux. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ce discours dans le contexte de la place des États-Unis dans le monde.
Exactement, parce que ça parle vraiment de la place des États-Unis dans le monde. Cette idée de vouloir dresser un mur pour empêcher le monde, littéralement, d'arriver aux États-Unis. Il y a un paradoxe chez Trump. Il dit, il ne cesse de répéter depuis sa campagne électorale, « Make America Great Again », mais ce prestige retrouvé des États-Unis passe par l'isolationnisme. Le monde lui fait peur. En fait, le monde entier lui fait peur, sauf certains dictateurs. Le monde, selon Trump, est rempli de, il l'a dit hier, de terroristes, de meurtriers, de violeurs, de passeurs de drogue, dont il faut protéger les Américains. Quand il a dit qu'une crise migratoire guette les États-Unis, c'est extrêmement contesté aujourd'hui par les observateurs.
Tout à fait.
Il a argumenté, il a dit beaucoup de choses qui ont été d'ailleurs démenties par les vérificateurs de faits. Il a argumenté que le mur était une protection efficace qui serait autofinancée par l'accord de libre-échange avec le Mexique.
Ben oui, c'est tout simple.
Ben oui, c'est aussi facile que ça. Regarde, prochaine fois qu'on aura besoin de financer quelque chose, un mur, c'est pas compliqué. Donc, le mur, pour lui, c'est une promesse électorale, c'est un symbole. Ce sera son échec personnel si ça ne se fait pas, mais ce sera l'échec des États-Unis si ça se fait. Écoute, ça fait 2 ans qu'il est élu et il a vraiment changé la dynamique mondiale.
Mais totalement.
D'abord, économiquement, ça c'est clair. Il n'a pas endigué l'essor et le triomphe de la Chine. À sa décharge, ça avait commencé, cette suprématie mondiale de la Chine, ça avait commencé depuis... Même certains observateurs disent depuis quelques décennies, mais en misant sur une économie traditionnelle déjà morte, celle du charbon, celle du pétrole, celle de l'automobile conventionnelle, disons qu'il a transformé une espèce de recul des États-Unis en idéologie, littéralement. Puis en politique internationale, cet isolationnisme dont on parlait et ces déclarations belliqueuses. Or, pour la croissance, pour leur croissance, les pays ont besoin de stabilité dans le monde. Et les traités et les ententes, en général, ça a pour but de maintenir les risques de conflits loin des frontières des pays. On sait qu'il est allé casser l'OTAN. Les bases militaires, en général, celles de la Corée du Sud, celles du Japon, sont là aussi pour ça, pour tenir à distance les conflits, pour créer un certain impact.
Ouais,
des
mais,
traités...
Oui, mais il n'y croit pas. Il n'y croit pas à ces traités-là. C'est-à-dire, c'est comme, OK, on va rester, mais il faut vous payer davantage, il faut vous participer. Oui. Ça ne marche pas, cette affaire-là. On fait rire de nous. En fait, il y a une grande paranoïa sur tout, sur l'ensemble de l'œuvre mondiale.
Et une incompréhension de ce à quoi ça sert. Prends juste le traité de l'ALENA, donc Mexique et Canada. Ça garantissait, avec une certaine difficulté, j'en conviens, une certaine stabilité économique au Mexique. Et en venant tout défaire ça, en venant casser ce traité-là et en faisant signer un vraiment au détriment du Mexique, il crée de l'insatisfaction et de l'instabilité au Mexique. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, évidemment que la frontière américaine et que les États-Unis vont prendre cette instabilité dans la gueule. C'est clair. Tu crées l'exact contraire de ce contre quoi tu veux te protéger. Il s'est retiré donc de plein de traités comme ça. Alors, il augmente les risques d'insécurité dans le monde et à sa frontière. Alors, il a diminué en 2 ans, c'est fou, hein, parce que ce genre de phénomène-là se joue en général sur le long terme. À un moment donné, par la présidence d'un homme, t'arrives à dire « OK, il s'est passé telle affaire, tu fais le bilan ». Mais en 2 ans, c'est une vitesse complètement folle,
ben c'est, accélérée. Il est au tweet.
Ben, effectivement,
alors, au tweet,
ça s'est passé
tu changes
à cette
le monde
vitesse-là.
En 5 minutes.
En 280 caractères, tu as tout à fait raison. Alors, il a diminué l'influence internationale des États-Unis et du coup, il a affaibli la sécurité nationale aux États-Unis et il rapproche les possibilités de conflit vers ses frontières et un mur, même en acier, comme dans la dernière version du Donald, ce ne sera pas assez pour les protéger, c'est clair.
Ça, c'est clair. Et tu sais, il semble oublier le Donald, comme tu l'appelles si bien, comme les Anglais l'appellent, ouais. The Donald,
ouais.
Que quelque part, sa famille est arrivée aux États-Unis, je veux dire,
ah, ça, c'est fascinant. C'est,
il, je veux dire, il est pas, oui. Sa famille n'est pas là depuis 400 ans. Là.
Comme la plupart des Américains, cette nation-là
absolument.
Est grande.
Et c'est ce qui fait sa beauté.
Ben, c'est ça, elle est grande dans sa diversité, dans sa multiplicité, dans sa force d'intégrer et de faire de tout ce melting pot-là des Américains. Et il arrive avec une formule qui, ma foi, est vraiment très discutable.
Ouais, et sa base le suit. Sa base qui aime ce côté qui, justement, lui, il y a rien sans épreuve. On brise tout, on casse tout, on se...
Mais il y a un aveuglement, Marie-Claude, il y a un aveuglement...
Inquiétant,
t'as raison.
Très inquiétant. J'aurais bien aimé t'entendre parler du mur comme tel. Pas du mur, mais du mur dans le contexte du shutdown actuel.
On aura l'occasion d'y revenir. Hein, c'est pas fini, cette affaire-là.
Non, c'est parce qu'encore là, il est comme un enfant. Tant qu'il n'aura pas son jouet, c'est vraiment épeurant.
Oui. Ça fait peur.
Ben écoute, on va essayer de se rassurer autrement. Je te remercie
beaucoup,
Marie-France.
À demain.